Radio Okapi.
Le journal Babel Pongo Massimango.
Madame, Monsieur, bonjour. La coordination de la société civile de l'Ituri appelle le gouvernement à mettre fin aux violences qui ne cessent de secouer cette province. Cet appel intervient après une nouvelle tuerie attribuée à la Codeco dans trois villages de Djougou. Au moins une quinzaine de personnes ont été massacrées mercredi. Les conditions de voyage déjà difficiles à l'aéroport de Mavivi à Beni se sont davantage détériorées après l'incendie qui a ravagé mercredi la salle d'attente et certains bureaux, dont ceux de la RVA. Agents et passagers plaident pour une intervention urgente des autorités. Le débat sur la révision ou le changement de la constitution du pays continue de susciter des interrogations dans l'opinion publique et dans la classe politique. Dialogue entre Congolais s'y est penché hier. Dans ce journal, les réactions des intervenants. Bienvenue à cette édition du journal qui part de l'Ituri. Une attaque attribuée aux miliciens de la Codeco a fait une quinzaine de morts mercredi dans les territoires de Djougou, selon des sources concordantes. Ces tueries ont été perpétrées au village Mba, Gokpa et dans le groupement de Dendro après plus de trois mois d'accalmie dans la zone. La coordination de la société civile de l'Ituri appelle le gouvernement à stopper une fois pour toutes ces violences qui risquent de détériorer la situation sécuritaire dans la province. Isaac Remo nous relate les faits.
Des hommes armés munis de fusils et d'armes blanches ont attaqué simultanément mercredi trois localités du territoire de Djougou. Amba, quatre personnes ont été tuées. Sept autres ont perdu la vie à Dendro et cinq à Gopa dans le secteur de Walindopiti. Parmi les victimes figurent sept enfants et quatre femmes, affirme la coordination de la société civile. Cette attaque inquiète la population qui vivait jusque-là dans une relative accalmie, ajoute la même source. Le coordonnateur de cette structure citoyenne demande au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour mettre fin à ces violences et arrêter les présumés auteurs qui sapent le processus de paix dans la province. Dieudonné Lossa.
À cette période, la province de l'Ituri est déjà en train de croire que le courbe des exactions était en train de fléchir. Et voilà encore les choses rebondissent. Nous nous attendons à l'arrêt immédiat de massacres et des pillages des biens de la population par des incivils. Nous demandons à ce que tous ceux-là qui sont auteurs de ces dégâts puissent être arrêtés et déférés devant la justice.
Ces bilans restent toutefois provisoires. Certaines sources locales évoquent plutôt 25 morts, d'autres parlent même d'une trentaine de civils tués par ces rebelles. Mais ces informations ne sont pas encore confirmées par des sources officielles. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Plus de 6000 violations des droits de l'homme ont été documentées en 2025 en République démocratique du Congo. C'est ce que révèle le rapport annuel du BCNUDH, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, publié hier jeudi à Kinshasa. Le document fait état d'une hausse de 24% de violations par rapport à 2024, dans un contexte de détérioration de la situation sécuritaire, surtout dans la partie est du pays. Que retenir d'autre de ce rapport, Grassam Zati?
Au total, 6169 violations et atteintes aux droits de l'homme ont été recensées en 2025 en RDC. Ces violations ont fait plus de 18 000 victimes, dont 2 806 femmes et 1 394 enfants, selon le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Les groupes armés sont responsables de 71% des violations, avec en tête le mouvement AFC M23, cité comme principal auteur. Les agents de l'État, eux aussi, sont impliqués dans 28% des cas. Le rapport souligne aussi une forte dégradation de la situation sécuritaire dans l'est du pays après la prise de Goma et Bukavu ainsi que des larges zones du nord Kivu et du sud Kivu par l'AFC M23 et l'armée rwandaise. Autre constat préoccupant, les violences sexuelles liées au conflit ont augmenté de 59% avec 1479 victimes documentées. Le rapport note également un rétrécissement de l'espace civique marqué par des pressions contre les défenseurs des droits humains, les journalistes et certains membres de l'opposition. Selon le rapport, le Conseil national des cyberdéfenses a procédé à l'arrestation et à la détention illégale des centaines de personnes privées de tout accès à leurs proches et à leurs avocats.
Des cas de vindicte populaire sont de plus en plus enregistrés dans le territoire de Kambo, province du Haut-Katanga. La vice-présidente du bureau de l'Assemblée provinciale tire la sonnette d'alarme. Elle demande à la justice de décourager ces actes qui arrachent la vie des innocents sur base de rumeurs infondées. L'élu de Kambo en veut pour preuve la mort d'une femme enceinte par lapidation le week-end dernier en pleine journée, victime d'une foule déchaînée. D'autres détails avec la députée provinciale Liliane Kombamaka au micro de Jean Gandou.
Des hommes ont déclaré que les aurait bousculés les a pris leur sexe. On l'a tabassé, déshabillé, mis à mort. Ces pratiques sont devenues récurrentes au Cambodge. Le 6 juin, 4 jeunes hommes ont trouvé la mort dans les mêmes circonstances, brûlés vifs. Une semaine après, c'est un autre jeune homme à Mwadingusha. Il y a de cela 2 ou 3 semaines, on a tué un père de famille arraché dans sa maison sous les yeux de sa femme. On l'a poignardé, soi-disant c'est un sorcier. Il est inacceptable, il est inadmissible de mettre fin à la vie des personnes innocentes dans des circonstances pareilles. Tout le monde est en danger parce que la foule n'a pas d'âme. Que ces actions soient punies avec toute la célérité pour mettre fin à jamais. Et j'en appelle aux femmes de se lever comme un seul homme pour demander justice à cette femme, justice à ses enfants, à son mari et à sa famille. Trop, c'est trop.
Parlons à présent de ce nouveau rapport de l'ONG internationale Human Rights Watch, publié mercredi, sur la vague de disparition forcée à Kinshasa. D'après Human Rights Watch, depuis mars 2025, les forces de sécurité congolaises sont responsables de nombreuses disparitions forcées à Kinshasa, la capitale et ses environs. L'ONG dit avoir documenté 17 cas de personnes victimes de disparitions forcées ou portées disparues l'année passée. Elle affirme avoir reçu des récits crédibles de plusieurs cas supplémentaires. Bon nombre de ces personnes disparues ont été retrouvées souvent 2 mois plus tard en détention dans les locaux du Conseil national de cyberdéfense CNC. Le rapport précise que le Conseil les a arbitrairement arrêtés et détenus, et ce, en parallèle de la police nationale congolaise et de la garde républicaine. Alain Runga lu ce document sans condenser.
Au cours de l'année passée, les forces de sécurité congolaises ont secrètement arrêté et détenu des personnes pour des motifs fallacieux au cœur de la capitale, a déclaré Lewis Mudge, directeur pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch. Dans la plupart des cas, il semblerait que les arrestations soient motivées par des considérations politiques ou concernent des personnes soupçonnées de soutenir le groupe armé qui s'est emparé de certaines régions de l'Est de la République démocratique du Congo. Entre juillet 2025 et mars 2026, Human Rights Watch a mené des entretiens avec plus de 34 personnes, dont 9 anciens détenus du CNC et 11 proches des détenus. Human Rights Watch n'a pas divulgué les noms des personnes interviewées afin de garantir leur sécurité. Les responsables du CNC ont rencontré Human Rights Watch le 20 novembre et le 5 décembre 2025. Et l'un d'eux a déclaré que l'unité a pour rôle de coordonner les services essentiels et que ses agents ont le droit d'intervenir si nécessaire. Cependant, le responsable est resté vague sur les détentions, faisant allusion au pouvoir du gouvernement de restreindre la liberté des personnes pour des raisons de sécurité essentielles. En réponse à un courrier de Human Rights Watch, Jean-Claude Bukasa, directeur et coordinateur du CNC, a écrit le 17 février que le CNC ne dispose d'aucun pouvoir d'arrestation ni de détention des personnes.
Et en ce mois de Ramadan, période où les fidèles musulmans multiplient les moments de prière, un appel particulier leur est adressé, prier pour la nation congolaise. Cet appel vient de l'imam Idi Oumari de la mosquée centrale de Kindu. Il exhorte les fidèles, notamment lors de la prière spéciale du Ramadan appelée Tawai, en plus de 5 prières quotidiennes obligatoires, à implorer le retour de la paix dans le pays et à prier pour les dirigeants. Au micro de Florence Kizalunga, l'imam Idi Oumari invite les musulmans où qu'ils se trouvent à profiter de ce moment des jeunes pour porter la nation dans leur prière. On l'écoute.
La première prière s'appelle la prière des Zuhuri. Compte tenu du temps de la ville de Kindu, c'est une prière qui s'accomplit à 12h45. La deuxième prière, c'est la prière des Asr à 15h45. Et la troisième prière, c'est la prière des Magharibi. À Kindu, c'est à partir de 18h35. La quatrième prière s'appelle la prière des Shah. C'est autour de 19h45. Et la dernière prière, c'est la prière des Fajri à 5h20. Effectivement, ça fait partie des particularités du mois de Ramadan. Il y a une prière supplémentaire qui ne se retrouve nulle part, seulement dans les mois de Ramadan. C'est la prière des Taraweh. Vu le contexte actuel de notre pays caractérisé par l'insécurité, particulièrement dans la partie orientale, on demande aux musulmans de prier pour le retour de la tranquillité, le retour de la paix en RDC et par la même occasion, prier en faveur de nos différents dirigeants, qu'ils soient des dirigeants sur le plan religieux ou sur le plan politique.
Après l'incendie qui a ravagé mercredi la salle d'attente et des bureaux de la régie de force aérienne, RVA et d'autres services de l'État et l'aéroport de Mavivia Beni dans le Nord Kivu, les conditions de voyage sont devenues particulièrement précaires. Ces bâtiments construits en planches depuis plus de 10 ans présentaient déjà des signes de vétusté. Désormais, la vérification des passagers, le contrôle des bagages et toutes les formalités se font en plein air dans un aéroport qui disposait déjà d'installations limitées. Martial Papimoukeba s'est rendu sur place. Son reportage.
Si le trafic aérien se poursuit à l'aéroport de Beni, les conditions de travail et de voyage restent difficiles, reconnaît Mathieu Abel Sadiki, commandant de la RVA à Beni.
Les services de l'RVA continuent normalement, malgré qu'il y a un problème de traitement des passagers. Tout se passe en plein air comme il n'y a pas de bâtiment, mais l'autorité provinciale nous a rassuré qu'on va trouver la solution d'un moment à l'autre.
Un passager dénonce une situation indigne.
Regardez, vous nous trouvez tous debout sous le soleil ardent. Il n'y a ni toilette maintenant là où nous parlons. Il n'y a rien, aucune condition réunie, mais les avions atterrissent. C'est indigne d'un aéroport. Un truc en planche comme ça, vous avez l'image d'un truc du Moyen-Âge, c'est quand même ridicule. Il faut retravailler cet aéroport de fond en comble, parce qu'on ne peut pas continuer à faire voyager des gens comme des animaux.
Depuis un an, l'aéroport de Beni est le seul relié à le Nord Kivu à certaines villes de la RDC depuis l'occupation de Goma par l'AFC M23. Mais il ne dispose ni d'aérogare ni d'installations viables. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Et cette bonne nouvelle pour les populations des provinces de l'Omami et du Kasaï oriental. Le trafic du bac de Kasansa a officiellement repris depuis mercredi sur la rivière Kalelu, ce qui rétablit la traversée entre les deux provinces. Cette reprise rejouit les populations dont les déplacements de part et d'autre avaient été interrompus. La cérémonie de lancement a été présidée par Élisée Kabuya, ministre provincial de l'économie et des finances du Kasaï oriental, et celle de l'Omami était notamment représentée par l'administrateur du territoire assistant en charge de l'économie et des finances du territoire de Ngandajika, ainsi que par le directeur général de la Direction générale de recettes de l'Omami, André Nyimbwe. Ces informations des Aboto Yomboué de Radio Veritas Kabinda sont rendues par Élise Kavira.
Selon les responsables du service, le BAC assurera la traversée chaque jour de la semaine de 8h à 18h afin de faciliter la mobilité des populations et le transport des marchandises entre les deux rives. S'exprimant à l'issue du lancement, le directeur général de la Direction générale des recettes de l'Omami de Gerlo, André Nyembwe, s'est dit satisfait de voir ses trafics reprendre. Il a souligné que cette relance permettra désormais aux populations des deux provinces de circuler librement tout en favorisant les échanges commerciaux et la circulation des marchandises entre l'Omami et le Kasaï oriental.
Nous demandons à la population de se préparer, qu'il commence à traverser. Je sais que lorsque ces activités ne se déroulaient pas encore, c'était un manquement pour la province et aussi la population était priée.
Cette reprise intervient après l'interruption des activités consécutives à un drame survenu le 13 février dernier sur la rivière Kalelu, impliquant un minibus qui tentait la traversée dans cette zone située entre les deux provinces. Les autorités espèrent que la remise en service du BAC contribuera à améliorer la sécurité et l'organisation de la traversée sur cet axe stratégique.
À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars sur le thème « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles », la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, à travers sa section genre, a organisé hier 12 mars à Kinshasa un atelier de plaidoyer. Cette rencontre a réuni des femmes vivant avec handicap, des représentants des institutions publiques ainsi que des partenaires humanitaires. C'est dans le but de promouvoir les droits des femmes handicapées et aussi de renforcer leur participation dans le processus de paix et la réponse humanitaire en République démocratique du Congo. L'essentiel de cette rencontre avec Nancy Tambo.
Au cours des échanges, les participantes ont évoqué les défis liés à l'accès aux droits, à la justice et à leur inclusion dans les mécanismes humanitaires. La chef de la section genre de la MONUSCO, Mireille Afar, a insisté sur la nécessité de renforcer la participation de femmes vivant avec handicap dans la réponse humanitaire.
Il est important d'évaluer leurs besoins, de leur donner une voix dans la définition de la réponse humanitaire à leurs besoins.
La représentante du ministère provincial du genre, Philomène Eyalembo, Oyo a pour sa part souligné l'importance d'améliorer l'accès à la justice et à la participation de femmes handicapées aux prises de décisions.
Le pays doit penser à prévoir des textes qui les protègent. Il faut des structures d'encadrement effectifs.
De leur côté, les organisations de femmes handicapées ont partagé leurs difficultés et proposé des pistes pour améliorer leur inclusion.
Les femmes avec handicap, la plupart n'ont pas de niveau d'études. Elles vivent dans les complexes d'infériorité. Nous disons à toutes les femmes avec handicap de bannir la peur.
À travers cet atelier, les participantes espèrent voir émerger des actions concrètes pour renforcer l'inclusion et la participation de femmes vivant avec handicap dans la société et dans les réponses humanitaires.
Actualité internationale.
Le ministre français des Affaires étrangères est arrivé hier à Bangui, capitale de la République centrafricaine, pour une visite de 2 jours. Selon africanews.fr, il s'agit de la première visite d'un haut responsable français depuis 7 ans. Elle s'inscrit dans le cadre d'une campagne visant à relancer les relations diplomatiques après des tensions liées à l'influence croissante de Moscou en République centrafricaine.
L'invité.
Le débat sur la révision ou le changement de la constitution du pays continue de susciter des interrogations tant dans l'opinion publique que dans la classe politique. Pour certains partisans de l'Union sacrée de la nation, cette loi fondamentale de la République n'est plus adaptée aux réalités actuelles du pays. Il faut donc la modifier pour accorder un 3e mandat au président Félix Tshisekedi. Face à cette volonté exprimée par l'UDPS notamment, l'opposition rejette fermement l'hypothèse d'une révision constitutionnelle. Suivant les interventions des participants à ce débat au micro de Jean-Marc Matouaki.
Monsieur Daniel Asselo, vous êtes cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Comment l'UDPS justifie sa démarche qui vise à toucher à la Constitution?
Je vous dis tout de suite là que la démarche de l'UDPS est politiquement justifiée. Tout le monde se rappelle dans ce pays que lors de l'adoption de cette Constitution au référendum, nous sommes en 2005. L'UDPS s'est abstenu et a décidé de ne pas aller participer à ces référendums. Tout le monde le sait. On doit nous demander au jour d'aujourd'hui qu'on reste intellectuel, comme je l'ai dit à une occasion, et la vidéo est en train de circuler. Qu'on ne nous pose pas, on ne veut même pas nous poser la question de savoir pourquoi en 2005, nous avons décidé de ne pas aller participer à ce référendum sur l'adoption de la Constitution. Ça, c'est un. Donc, sur le plan intellectuel, vous voyez que c'est important que l'UDPS amorce cette démarche ici. Sur le plan toujours politique, nous allons rappeler à tout le monde que dans ce même cadre, Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, nous allons le dire combien de fois, a déclaré à l'intention du Congo et de l'Afrique et peut-être du monde. C'est vrai que ça concernait la constitution de la République démocratique du Congo. Mais le président Tshisekedi a dit, entre autres, que cette constitution était écrite par les étrangers, qu'elle est fausse, et lorsque l'UDPS accédera au pouvoir, c'est la promesse, pour nous c'est un testament, c'est la promesse faite par Étienne Tshisekedi. Lorsque l'UDPS accédera au pouvoir, elle donnera à la République une nouvelle constitution.
Alors, Mike Mukeba est coordonnateur provincial d'Ensemble pour la République. Comment analysez-vous justement cette démarche de l'UDPS?
Je suis en face au cadre de l'UDPS, je suis très content. Il dit que c'est une constitution rédigée à l'étranger des étrangers. Il ne vous dit pas dans quelle ville du monde elle a été rédigée. Même Étienne Tshisekedi, il ne l'a jamais dit dans quelle ville. Et il faut nous donner les noms de ces rédacteurs étrangers. Vous ne les avez pas. Cette constitution a été rédigée par une commission mise en place par le Sénat du 1+4 de la transition, et c'est cette commission qui a travaillé à Simisimi, à Kisangani. Les faits sont là. Les rédacteurs sont congolais, 16 sénateurs. C'est une commission sénatoriale qui a travaillé là-dessus, et cette commission a bénéficié de l'apport de certains étrangers. Si je peux le compter, ils étaient 3. El Hadj Bodj, le Sénégalais, il y a un autre dont la nationalité, le nom m'échappe, et il y a eu Bob Kabamba pour le compte de son université, l'université pour laquelle il travaille en Belgique. Ouais. Alors, elle est constitution des étrangers, ou quand elle a quitté Kisangani, comme avant-projet, avant d'être examiné au Sénat, il y a eu des experts congolais
qui l'ont retouché, qui ont essayé de voir pour donner à cette constitution la forme légistique, les Beauchamp, les Mampouille et tous les autres. Ici, une commission des experts, elle est passée au Sénat, avant-projet, de l'avant-projet, projet à l'Assemblée nationale et puis promulgation. Elle est une constitution de l'étranger depuis quand? Et c'est cela le problème, là où c'est suspect. Parce que votre campagne repose sur le mensonge, je sais que vous avez un agenda caché. C'est cela le grand problème. La volonté, elle est claire, et c'est Bidimbou qui le dit, vous voulez un pouvoir à vie, vous vous êtes trop compromis dans la gestion, vous voulez pas de redevabilité. Voilà, les Congolais doivent le savoir.
Merci Mike, on va écouter cette fois-ci Christian Moleka, vous êtes analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la République démocratique du Congo. Quelle est votre analyse du débat relatif justement à la révision ou au changement de la Constitution?
Le débat sur cette question a toujours été délicate et sensible parce que ça nous rappelle entre notre historité politique récente des événements de 2015 et 2016. À savoir un président qui arrive à un mandat, un débat autour de son maintien au pouvoir. Et si vous regardez le contexte, on est pratiquement dans un même contexte d'un président qui a son dernier mandat constitutionnel et donc des velléités de vouloir se maintenir au pouvoir. Quand on connaît la sensibilité de la question, on peut comprendre également qu'il y ait autant d'émotions et de passions sur la question. Deuxièmement, c'est l'ambiguïté. Parfois on parle révision, parfois on parle changement, on dit maintenant toucher. Est-ce que toucher veut dire modifier? Est-ce que toucher veut dire changer? L'ambiguïté sur la question entretient donc la suspicion et puis il y a des déclarations comme celui du ministre qui viennent encore complexifier et jeter de l'huile sur le feu pour justement orienter vers une logique de changement. Et donc il n'y a pas sur la table aujourd'hui, même conduit par l'UDPS, un débat de fond sur quels sont les éléments sur lesquels on discute.
Vous pouvez réécouter l'intégralité de ce numéro de Dialogue entre Congolais en allant sur www.radiookapi.net. Merci de l'attention accordée à ce journal préparé par Alain Ronk, mis en onde par Dieudonné Nyangasa. Passez une excellente journée.